Quand on se sent perdu, on a tendance à aller chercher dans nos racines pour essayer de retrouver des bases auxquelles on peut s'accrocher. Et c'est exactement ce qu'a fait Arnaud Rioux, mon invité aujourd'hui. Il a passé plus de 20 ans à étudier une forme de sagesse orientale, à s'intéresser au chamanisme. Il a écrit énormément de livres et il a été côtoyé pas mal de peuples primaires, comme un anthropologue pourrait le faire. Et avec Arnaud, on parle de sagesse, on parle de médecine douce, on parle de chamanisme évidemment. C'est une conversation qui devrait vous aider, qui devrait vous rassurer, j'espère. Je vous laisse l'écouter. Allez, Vlan, c'est parti. Donc bonjour à toutes et bonjour à tous. Bonjour Arnaud.
Bonjour.
Est-ce que vous allez bien aujourd'hui ?
Moi ça va bien, ouais, ça va bien. On est en plein dans le printemps et tout va bien.
C'est agréable. La première question que j'avais envie de vous poser... c'est que vous êtes parti d'une carrière dans le spectacle, dans le théâtre, si je ne me trompe pas. Qu'est-ce qui vous a amené à aller explorer d'autres peuples, d'autres populations ?
Bon, en fait, c'est un chemin qui se fait graduellement. C'est souvent une fois que les événements sont passés qu'on comprend pourquoi on fait pourquoi on prend telle direction et que d'un seul coup on se rend compte que le parcours est cohérent et qu'il y avait un sens, même si sur le coup il y a quelque chose qui pouvait m'échapper. Et en fait, ce qui s'est mis en place de façon naturelle, c'est que moi j'ai eu une carrière en tant que qu'acteur, metteur en scène, directeur de théâtre pendant une vingtaine d'années. Et assez vite, j'ai appris énormément au théâtre. J'ai appris comment fonctionne le personnage, comment fonctionnent les émotions, comment se crée la dramaturgie, comment le personnage crée son rôle au théâtre. Enfin, vraiment, j'ai appris énormément sur la nature humaine et ça a été ma première exploration. Et puis, de fil en aiguille, en tant que comédien et puis étant dans un monde qui était très, très agité avec beaucoup d'enjeux, j'ai eu besoin de mieux me connaître aussi, mieux me comprendre. Donc j'ai découvert la méditation quand j'avais 25 ans, ça fait 35 ans maintenant. Et initialement, ça me parlait vraiment juste pour développer un peu plus de calme. Et puis, de fil en aiguille, il y a eu une connexion qui était très très forte avec les maîtres tibétains. Et donc, j'ai commencé à recevoir des enseignements avec les maîtres tibétains. Mais là, il y a quelque chose qui vraiment me parlait. Je sentais ça apportait des réponses à des questions que j'avais même du mal à formuler sur le sens de la vie, sur qu'est-ce que l'âme, est-ce qu'il y a une vie après la mort, enfin sur toute une dimension spirituelle invisible où j'avais cette appétence vraiment à explorer ça. Et le bouddhisme tibétain m'a vraiment ouvert beaucoup de portes. Donc j'ai passé presque 15 ans avec les maîtres tibétains. Je suis parti en Inde, je suis parti au Tibet, j'ai été initié à beaucoup de pratiques du Vajrayana et ça a vraiment nourri profondément mon âme. Et de fil en aiguille, le bouddhisme m'a amené au chamanisme, le chamanisme a rejoint le bouddhisme. Ça a été vraiment deux voies qui n'ont pas arrêté de rouler en parallèle, quoi. Et donc aujourd'hui, quand je regarde a posteriori, puisque j'ai arrêté maintenant le théâtre il y a une dizaine d'années, parce que je me suis rendu compte que le théâtre, c'était un moyen pour moi de découvrir les personnages, de découvrir comment on crée notre personnalité. Mais profondément, j'ai fait ce que j'avais à faire en tant qu'acteur, et puis j'avais envie de passer vraiment à autre chose. Et c'est ce qui fait que j'ai, pendant très longtemps, en parallèle, je jouais au théâtre, et puis j'animais des stages de théâtre. Et les stages de théâtre sont devenus des stages pour comprendre les émotions, puis des stages pour se connaître. Et puis des stages de méditation, et puis ça s'est fait. Il n'y a pas eu de coupure brusque, en fait. Je n'ai pas arrêté un métier pour en faire un autre. C'est plus comme une rivière qui prend des tangentes, et ça s'est passé comme ça, quoi.
En fait, quelque part, si j'entends, vous avez voulu transmettre ce que vous avez appris, finalement. C'est qu'au fur et à mesure que vous appreniez, vous vouliez transmettre Parce que ça vous faisait du bien, j'imagine, dans votre métier de comédien.
Clairement, à l'époque. Ça répondait à... Si je remets les choses dans leur contexte, je me posais beaucoup de questions, j'étais pas heureux, j'étais plutôt en souffrance quand j'avais 25 ans, et d'un seul coup, j'ai eu beaucoup de réponses aux questions que je me posais, et ça a ouvert beaucoup, beaucoup les perspectives. Et donc, naturellement, quand j'avais autour de moi, que ce soit des amis ou des gens par le biais des ateliers théâtre qui me posaient des questions, je me rendais compte à quel point le bouddhisme me nourrissait, puisque c'est pas une religion qui nous demande de croire en un dieu aveuglément, c'est vraiment nous poser des questions et nous aider à répondre à des questions avec des lois spirituelles qui sont très, très pragmatiques, la loi de causalité, comprendre que chaque cause produit un effet, la loi d'interdépendance, réaliser à quel point on est tous connectés les uns aux autres. Et au fur et à mesure, je réalisais que tout ce qui m'arrivait, c'était le fruit d'une attitude passée. Et donc, ça m'a amené à réajuster mon attitude et à incarner une attitude plus respectueuse, plus alignée, plus cohérente, d'être un humain plus responsable, plus doux, plus ouvert. Et petit à petit, naturellement, ça m'a donné envie de transmettre. Et donc, ça s'est fait vraiment naturellement. J'ai commencé à animer des stages. Moi, j'avais à peine 30 ans quand j'ai commencé à animer des stages. Et puis, ça s'est vite bien passé. Et puis, les gens qui venaient en stage me demandaient « Est-ce que tu reçois en individuel ?» Donc, j'ai ouvert un cabinet et puis j'ai commencé à recevoir en individuel. J'ai reçu pendant 20 ans en individuel. Et puis, un jour, je me suis dit « Tiens, finalement, ce que je dis, je pourrais l'écrire. » Donc j'ai écrit un premier livre en 2006 qui s'appelait Jouer le rôle de sa vie. Et voilà, là je suis en train de commencer le 16e livre sans me rendre compte à quel point ça s'écrit tout seul maintenant.
C'est incroyable. Et alors, je vais poser une question peut-être bête, mais moi, je crois qu'il n'y a pas de question idiote, donc du coup, je me permets. Ce que vous avez trouvé dans la religion bouddhiste, vous ne l'aviez pas trouvé dans la religion catholique, par exemple. Enfin, je ne sais pas de quelle confession vous êtes, d'ailleurs, mais à l'origine, je veux dire, en France, on est dans une culture plutôt catholique.
Bien sûr, moi, je suis baptisé, j'ai fait mon catéchisme, j'ai fait ma première communion, Oui, ça me nourrissait à un endroit. Ça me nourrissait dans une relation. Dans le bouddhisme tibétain, on parle de la prise de refuge. C'est le moment où vraiment on prend refuge dans ce qu'on appelle les trois joyaux, le Bouddha, le Dharma et la Sangha, qui est le Bouddha, l'assemblée des pratiquants et l'enseignement sacré. Et quand on prend refuge, c'est comme si on était en CDI avec l'univers. D'un seul coup, il y a quelque chose qui lâche. Et ça, je l'ai senti simplement quand j'ai fait ma communion, ou quand j'ai fait dans la religion catholique. Mais par contre, dans l'enseignement, il y avait quelque chose qui était très didactique. Moi, d'une part, je me considère comme quelqu'un de libre. J'aime pas qu'on me dise ce que j'ai à faire. J'aime bien explorer, j'aime bien comprendre. Et puis, j'aime bien pouvoir m'adresser directement. Les chamans disent des fois que les prêtres rentrent dans une église et nous parlent de Dieu, et que les chamans rentrent dans le tipi et parlent avec Dieu. C'est très, très différent. C'est-à-dire qu'il y a une interaction directe. Et moi, j'ai jamais aimé les intermédiaires, j'aime bien pouvoir m'adresser directement, et c'est possible. C'est ce que nous apprend le bouddhisme. Le bouddhisme nous enseigne à entretenir une relation directe avec nos esprits tutélaires, avec nos ancêtres, et c'est une relation sans intermédiaire, c'est-à-dire qu'on a la capacité chacun à nourrir une relation intime avec notre animal de pouvoir, avec nos guides, avec nos esprits tutélaires, avec nos ancêtres. Ce que moi j'avais du mal, je me souviens d'une fois où j'avais, je sais plus, 13-14 ans, et quand le prêtre me disait « Tu n'es pas venu me voir pour te confesser », je disais « Non, je m'adresse directement à Jésus ». Et ça avait été très, très mal pris, en disant « Mais quelle arrogance tu as de croire que tu peux te passer d'un prêtre ». Et si j'ai écrit quelques années plus tard « Réveiller le chaman qui est en vous », c'est justement pour accompagner chacun à développer son autonomie. Moi, je suis pour accompagner chacun à développer son autonomie spirituelle, matérielle, énergétique, physique. Voilà, quand on est libre, on a envie que les gens autour de nous le soient. C'est juste un prolongement naturel.
Ok. Et vous parliez justement de chamanisme. C'est quoi pour vous le chamanisme? Parce qu'en fait, le chamanisme, il est présent dans toutes les cultures. En fait, il est présent dans la culture occidentale, enfin au Tibet, voilà. Il y a même, de manière assez intéressante, des manières de faire qui sont identiques d'une culture à l'autre sans que les personnes se parlent. C'est-à-dire que, en fait, c'est des procédés ancestraux et finalement on se rend compte que c'est des procédés qui sont pas identiques, mais il y a plein de similarités entre ces procédés. Donc la première question, c'est d'abord de savoir c'est quoi le chamanisme. Si tout le monde peut être chaman, c'est intéressant de comprendre ce que c'est que le chamanisme, en tout cas dans votre définition.
Je précise, tout le monde peut être chaman. Non, tout le monde peut pas être chaman, mais en revanche, tout le monde peut s'initier au chamanisme. C'est très très différent. C'est un peu comme la médecine. Tout le monde peut s'intéresser à la santé. Tout le monde n'est pas docteur. Et pour le chamanisme, c'est pareil. On peut s'y intéresser. On peut devenir un praticien en chamanisme. Et définir le chamanisme, c'est un exercice tellement délicat parce que il n'y a pas un chamanisme. Le chamanisme d'Amazonie qui fonctionne beaucoup avec les plantes n'a pas grand chose à voir avec le chamanisme mongol, par exemple. C'est pas la même. Le chamanisme mongol, c'est les chamans qui incorporent leurs ancêtres. Donc il y a vraiment une notion d'incorporation qui n'existe pas dans d'autres traditions. Et puis le chamanisme aztèque ou le chamanisme indonésien, ça va être encore autre chose. Donc il y a vraiment beaucoup de différences. Maintenant, il y a aussi des similitudes qui fait que dans toutes les traditions chamaniques, on va considérer et on va sentir que tout ce qui est vibrant est vivant et donc a un esprit, et que donc tout le peuple animal, le peuple minéral, le peuple végétal est animé d'un esprit. Et ça, on retrouve ça dans toutes les traditions chamaniques, dans l'animisme. C'est vraiment... et donc, ça provoque un respect de la vie sous toutes ses formes. Et ça, c'est quelque chose qu'on va retrouver dans le chamanisme, c'est qu'il y a toujours une quête d'un respect de la vie, d'un respect de tout ce qui est vivant. Donc, on va être attentif à la vie des arbres, des végétaux, des plantes, des animaux, de toutes les traditions animales, de toutes les espèces animales, pardon. Et puis, comme on va être présent à l'esprit d'une rivière, à l'esprit... tous les chamans, par exemple, et toutes les traditions chamaniques vont honorer la rivière, vont honorer l'élément eau, vont honorer la pluie, vont honorer les astres, vont honorer les ancêtres. Et ça, c'est quelque chose qu'on va retrouver. Puis, comme vous disiez, c'est vrai qu'il y a des pratiques... qu'on peut retrouver, je pense, en disant ça à la hutte de sudation, par exemple, qui est qu'on va appeler en fonction, on va l'appeler l'inipi, on va l'appeler le sweat lodge, on va l'appeler le matato, en fonction qu'on est en Arizona ou qu'on est, et même chez nous, en Occident, les Celtes, dans le druidisme, il y a des pratiques qui étaient très très proches du chamanisme. Pour moi, ça se côtoie vraiment. Il y avait des pratiques de hutte de sudation qui était dans la pierre, qui était donc on va retrouver des pratiques qui sont très fortes. Il y a une purification avec le feu, il y a une purification avec l'eau. Donc il y a après la représentation des mondes, par exemple, va changer dans certains l'essentiel des traditions chamaniques. On parle des mondes d'en haut, des mondes d'en bas et des mondes du milieu. Les mondes d'en haut et les mondes d'en bas étant des mondes qui sont pas soumis à la temporalité. Donc c'est vraiment des esprits éveillés qui ne sont plus dans la dualité de ici, ailleurs, avant, après, c'est bien, c'est mal, ils sont plus du tout. C'est vraiment des esprits éveillés, que ce soit des animaux totems, des esprits d'ancêtres. Et puis les mondes du milieu, c'est les mondes dans lesquels nous sommes en tant qu'êtres incarnés. Voilà, ça c'est une représentation du monde qui est à peu près traditionnel à toutes les formes de chamanisme. Mais en Mongolie, par exemple, c'est beaucoup plus nuancé. Il y a les esprits de l'eau qui sont très importants. Il y a les esprits les esprits de l'air qui sont très importants. Il y a les esprits des ancêtres. Donc, c'est pas la même cosmogonie. Mais si je regarde, on pourrait dire... pour moi, ce ne sont que des mots qu'on utilise pour définir quelque chose qu'on perçoit. Si je regarde dans le christianisme, on va dire que Marie est la mère du Christ, bien sûr, mais c'est notre mère à tous. Chez les Tibétains, on va parler de Tara, qui est la mère de tous les Bouddhas. Et donc, c'est l'élément féminin, maternant, je me souviens d'un lama tibétain qui enseignait sur Tara, qui est la mère de tous les Bouddhas. Et donc, il disait, voilà, c'est la mère de tous les Bouddhas. Puis il y avait une femme disciple qui était chrétienne qui disait, mais si c'est la mère de tous les Bouddhas, est-ce que c'est la mère de Marie ? Alors le lama disait, bah oui, bien sûr, Tara est la mère de Marie, puis c'est la mère de tous les Bouddhas. Ah, donc c'est la grand-mère de Jésus. Il disait, non, c'est la mère de Jésus. Donc c'est juste une histoire de représentation. Chez bien nous, sûr. En Occident, on va visualiser les saints tels qu'on a vu nos ancêtres. Là où chez les Tibétains, on va les visualiser autrement. Mais ce sont que des formes d'énergie pure à qui on va donner une couleur, à qui on va donner en fonction des endroits, quoi.
Et puis ce sont des croyances, naturellement, ce sont des croyances qui sont liées à toute une histoire. Enfin, il y a énormément de choses derrière. Il y a une chose que j'ai remarqué sur votre compte Instagram en particulier, qui fait que je me suis hyper intéressé à vous, c'est les photos de ces peuples que je trouve magnifiques en réalité. Et justement, vous parliez tout à l'heure des différents peuples que vous avez pu être amené à aller voir. J'ai une vraie question autour de ce que vous avez pu retenir. En fait, c'est vrai que nous, on arrive souvent, occidentaux, européens, avec une vision quasiment post-coloniale, c'est-à-dire nous, notre mode de vie est sans doute meilleur et vous devriez faire ci, vous devriez faire ça, parce que quand même, ça serait mieux. Et on se rend compte que, par exemple, on peut considérer qu'un rite ou un autre rite, il n'est pas recevable, mais il n'est pas bien, parce que dans notre culture, ce n'est pas la bonne chose à faire.
Bien sûr.
Là, il y a plusieurs questions, j'en ai plein de questions, mais la première, c'est comment on fait pour se débarrasser de cette culture post-coloniale quand on va voir ces peuples-là, c'est-à-dire arriver avec simplicité et puis beaucoup d'humilité finalement. Et puis après, ce que vous avez appris, mais je veux bien qu'on commence par la posture quand on va voir ces personnes.
Ça demande de développer le discernement, ça demande de développer l'objectivité. C'est certain que même dans l'appellation, on parle des peuples civilisés, c'est vraiment une déformation du langage, et on va dire, ah bah oui, mais non, les autochtones d'Amazonie, ils sont pas civilisés, ils savent pas se tenir à table. Donc quand nous, occidentaux, on dit une culture civilisée, on entend une civilisation comme la nôtre. Un petit peu comme un oiseau regarderait un poisson en se disant « lui, il n'est pas civilisé, il n'arrive pas à monter à la branche ». Oui, ce n'est pas la même culture, mais il a une même intelligence, l'intelligence de savoir s'adapter à son environnement. Et ça, c'est très important pour moi d'avoir ce regard-là. Le poisson sait nager parce qu'il vit dans l'eau et donc il sait s'adapter à son environnement. L'oiseau, il sait s'adapter à son environnement. Et ça, ce sont deux espèces aussi intelligentes l'une que l'autre. Et les humains sont l'une des espèces, parmi les 500 000, il y a à peu près 500 000 espèces animales, les humains sont l'une de ces espèces. Et alors, après, on pourrait regarder qu'est-ce qu'on appelle l'intelligence. Mais pour être très simple, l'intelligence, pour moi, c'est déjà une capacité à savoir s'adapter à son environnement. Et si on regarde les êtres humains modernes, on ne sait pas s'adapter à notre environnement, puisque la preuve, on est capable de le détruire en quelques décennies, on est capable de scier la branche sur laquelle on est assise, parce qu'on ne sait pas utiliser nos ressources, on les utilise à court terme, on n'a aucune visibilité, on est capable de polluer les océans. Aujourd'hui, on sait en 2022 qu'il y a exactement autant de plastique que de poissons dans les océans au niveau biomasse. C'est hallucinant. On a éliminé à peu près la moitié de tous les mammifères en 40 ans. On a exterminé 90% des vers de terre de la terre. Donc, on a déjà, c'est important de regarder ça, on n'a pas cette intelligence simplement de survie. On a peut-être la capacité à faire des mathématiques poussées, à inventer des appareils très perfectionnés qui nous permettent de communiquer là à distance. C'est vrai qu'on a une forme d'intelligence. Mais cette forme d'intelligence n'est pas l'intelligence. Et donc, quand on découvre les peuples premiers, la première chose, c'est de s'intéresser à quelle est leur forme d'intelligence, quelle est leur forme de... Et on se rend compte qu'il y a une connaissance de leur environnement qui dépasse, je pense en disant ça à mes amis d'Amazonie, qui ont une connaissance du monde végétal qui est hallucinante. C'est-à-dire qu'ils ont une connaissance de tous les végétaux, quel végétal utiliser pour une migraine, pour un mal à l'estomac, pour un problème de peau, comment la faire chauffer, comment... Enfin, il y a une connaissance du monde végétal qui est juste hallucinante. Et une connaissance du minéral et une connaissance animale. Ils ont cette capacité, avec cette capacité à vivre en paix, et je crois que c'est... On peut, pour moi, mesurer l'intelligence d'une civilisation à sa capacité déjà à vivre entre elles, simplement ça. Et si on regarde, nous, on ne sait plus vivre ensemble. On est opposés, on passe notre temps à se battre, à nourrir des guerres, à nourrir des conflits, des exclusions, donc on a vraiment beaucoup de mal à simplement vivre ensemble paisiblement. Et ça, même pas pour des raisons de survie. Dans la savane, quand on va au Kenya, les girafes vivent avec les lions, qui vivent avec les gnous, qui vivent avec les antilopes et les léopards. Mais chacun, c'est pas toujours tout rose. Les uns et les autres se bouffent, et les uns et les autres se défendent et se protègent. Mais en revanche, chacun est conscient de la nécessité de vivre avec le tout. Et c'est ce qui fait que ça continue à vivre de façon équilibrée dans le monde animal, par exemple. Il n'y a pas une espèce qui se dit « on va tout coloniser pour être les seuls ». Ça, il faudrait être fou pour dire ça. Donc chacun chasse à partir de ce qu'il a besoin, chacun fait son territoire à partir de ce qu'il a besoin, mais le lion, il définit son territoire, il ne définit pas le plus grand territoire possible. Ça n'a aucun sens. Et quand on rentre dans « je veux avoir le plus grand territoire possible, je veux être le plus riche possible », on n'est plus dans la raison. Parce que le bouddhisme, justement, nous apprend la loi d'interdépendance, qui fait que si jamais j'élimine mon voisin, j'ai besoin de lui. Quand on voit simplement un pull au vert qu'on porte sur nous, il y a combien de personnes qui ont contribué à ce qu'on ait le pull au vert? Il y a celui qui a fait pousser le coton, il y a celui qui l'a récolté, il y a ceux qui ont fait les teintures, ceux qui l'ont coupé, ceux qui l'ont conduit en camion, ceux qui l'ont vendu. Il y a des milliers de personnes qui ont contribué à la fabrication d'un pull au vert. Donc on a besoin les uns des autres. Et ça, on le voit dans la nature. Les fleurs ont besoin des abeilles pour butiner, les oiseaux ont besoin des insectes, les insectes ont besoin des vers de terre, les vers de terre. Il y a un écosystème qui est intelligent et qui a compris qu'ils ont besoin les uns des autres. Et donc il y a un équilibre. Et chez nous, humains occidentaux, on n'est pas dans cet équilibre. On est dans un monde fou. On est vraiment dans un monde fou. C'est-à-dire un monde où, 5% de la population gagne autant que les 95% qui restent. C'est un déséquilibre. Et donc, un déséquilibre, on en paye tous les frais. Parce que par la loi de causalité, si on fait souffrir notre voisin, il y a un moment donné, il va s'en prendre à nous et il va vouloir nous casser la figure. C'est juste naturel, quoi. Donc, on n'a pas cette sagesse-là dans le monde moderne, déjà de faire preuve de pragmatisme, de faire preuve de bon sens en se disant « mais comment je peux pas seulement me maintenir, on est dans une civilisation très très égotique, comment je peux avoir comment je peux être le premier, comment je peux être le plus joli, le plus beau, le plus riche, mais ça c'est complètement égotique. La question c'est comment je peux survivre et comment mes enfants et les enfants de mes petits-enfants pourront survivre. Ça c'est une question civilisée mais qui nous manque un peu. C'est pour ça que les chamans souvent nous appellent les petits-enfants de la terre, parce qu'ils se disent vous êtes capable non seulement de détruire vos ressources. Comme vous êtes intelligent, vous êtes capable de mesurer à quelle vitesse vous détruisez les ressources. Et quand vous avez fait ce calcul, vous accélérez. Et donc, oui, il y a une folie. Hein. C'est vraiment la folie hein, chez nous.
Et comment ils envisagent cette folie? Parce qu'effectivement, je crois que notre société moderne a perdu pied. Je pense qu'on peut tous se mettre d'accord pour dire ça. on pourrait, j'aime bien cette, enfin j'aime bien, c'est toujours intéressant cette réponse qui est que oui, mais tu comprends, l'humain il est prédateur, c'est sa nature profonde de vouloir toujours plus, etc. Mais en fait c'est pas vrai, c'est pas la nature profonde de l'humain, et c'est pas la nature profonde
c'est la nature égotique, ça n'a rien à voir.
C'est ça, parce qu'en fait vous l'avez prouvé, c'est-à-dire que un lion il va pas dégommer toutes ses proies parce qu'il peut le faire, tout simplement il va se limiter parce qu'il sait que s'il dégomme toutes les proies, bah, au bout d'un moment il aura plus rien à manger.
Il prend ce dont il a besoin. Exactement. Et si on regarde sur la Terre, il y a de quoi nourrir l'humanité, il n'y a aucun problème avec ça. Un pépin de pomme, ça donne 15 tonnes de pommes, donc on a de quoi nourrir l'humanité. Simplement, si on veut être les seuls, et c'est ce qui fait, c'est le drame de la monoculture, c'est le drame de la culture intensive, c'est le drame de la pétrochimie, c'est qu'on veut tellement aller vite et dompter la nature, être le maître de la nature, qu'une seule espèce est capable d'en anéantir 500 000 autres. C'est délirant, quoi. Donc, vous me posez la question, comment les chamans regardent ça avec un œil, bien sûr, toujours positif, mais quand même profondément inquiet, parce que les chamans sont les chamans et les peuples premiers sont les gardiens de la terre. Il y a 95% de la forêt qui est habitée par 5% des populations. Mais ça, c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui où c'était, mais c'est en train de bouger justement parce que. Au Brésil, il y a une espèce d'accélération de l'orpaillage illégal, de l'utilisation du bois par des firmes, qui sont illégales et qui se développent à une rapidité terrible, quoi. Et c'est pour ça que les chamans sont inquiets. Qu'au Brésil, les chamans ont du mal maintenant à vivre le long de la rivière parce que les fleuves sont de plus en plus pollués par tous les hydrocarbures, mais tous les rejets de mercure, de titane, etc. Il y a énormément de pollution dû à l'orpaillage illégal et à l'abattage des arbres industriels. Et donc, ça remet en question une population qui sont les gardiens de sagesse, qui sont les gardiens de la terre. Donc, les chamans et les peuples premiers sont très inquiets. C'est ce qui fait d'ailleurs que depuis quelques années, ils se déplacent beaucoup, ils viennent nous alerter. Ils nous alertent en nous disant « on est les gardiens de la terre et on vous alerte, c'est clair ».
C'est très intéressant de voir. Je pense que les Occidentaux, ils les voient un petit peu comme des personnes un peu folkloriques, avec leurs habits, etc. Ils disent oh tiens, ils sont folkloriques, mais en fait ils essaient de délivrer un vrai message. En fait c'est intéressant. J'avais reçu un géographe sur des peuples premiers également, et ce qu'il expliquait c'est que même si on les a décimés, même si la société occidentale, pas nous spécifiquement, mais a été extrêmement dure avec eux, de manière générale, à cause de toutes les raisons, toutes les raisons que vous avez évoquées, eux, ils sont toujours dans l'échange. Ils pensent que on peut, parce qu'ils ont compris un truc, c'est qu'on vit sur cette même planète ensemble et qu'on est une espèce.
C'est ça. Il faut vraiment regarder que le regard, l'approche des peuples premiers et la nôtre n'a rien à voir. Nous, on est dans une civilisation individualiste où celui qui réussit, c'est celui qui réussit mieux que les autres. Pour les peuples premiers, tous les peuples premiers fonctionnent avec la même vision, c'est ensemble. C'est-à-dire que dans un corps humain, si le foie est malade, le cœur peut pas battre des mains en disant t'es malade mais ça me concerne pas, parce que si le foie est malade aujourd'hui, le cœur va être malade demain. C'est s'il y a des invasions de champignons agressives sur un arbre, l'arbre voisin va se dire attends, moi je suis exposé, et si on change rien, tous les arbres vont être malades. C'est une invasion de sauterelles, on se dit pas tiens t'as vu les arbres du premier rang, on est tous concernés. Et c'est pour ça que les chamans ont ce regard en disant oui, on a une partie de nous qui est malade, c'est l'Occident. L'Occident est malade. Et comme l'Occident est malade, à plus ou moins long terme, c'est la planète qui est vraiment menacée. Et là, on n'est plus dans c'est plus de la science-fiction. Les perspectives les plus pessimistes, enfin les plus optimistes du GIEC annoncent des drames pour les 10 ans qui viennent, quoi. On le sait qu'on en est là. Et malgré ça, on est encore, quand on regarde à la COP26, les décisions qui sont prises, on fait des perspectives à l'aube de 2032, on va limiter les hydrocarbures. Mais c'est complètement disproportionné par rapport à l'état de sensibilité, dans lequel on est, quoi. Il y a un, voilà, c'est vraiment une question de regard, quoi.
Est-ce que vous vous êtes posé la question, je vais vous la poser, mais ça se trouve, vous n'avez pas de réponse, c'est pas très grave, de savoir comment c'est possible qu'une civilisation se dérègle autant, c'est-à-dire perdre le contact avec la réalité. C'est pas tant se déconnecter de la nature, moi je crois pas trop qu'on soit déconnecté de la nature, parce qu'on est la nature, donc on peut pas être déconnecté de la nature techniquement, puisqu'on est de l'énergie fossile nous-mêmes, enfin quand on sera mort, en tout cas on sera de l'énergie fossile. Donc on n'est pas déconnecté de la nature, on a juste perdu pied, en fait. Et je sais pas comment une civilisation perd pied comme ça, je sais pas si vous êtes intéressé à cette question.
L'être humain, c'est le seul espèce animale qui a une capacité, qui a trois intelligences, là où les animaux en ont deux. Les animaux ont deux intelligences, qui est l'intelligence vitale, de trouver son territoire, de trouver son partenaire, de se défendre, de creuser un terrier. Ils ont cette intelligence vitale et ils ont l'intelligence du cœur, qui leur permet d'être touchés, d'aimer, d'avoir des sentiments, d'avoir des émotions. Les animaux sont capables de ça. Nous, on a une intelligence en plus, qui est l'intelligence de la perspective. C'est ce qui nous permet de nous projeter en 2040, de faire une comparaison avec 2030, de regarder par rapport au passé, de faire qui est une vision abstraite. Et ça, il n'y a que les humains qui sont capables de faire ça. C'est-à-dire qu'on crée comme un monde parallèle. Et plutôt que de vivre dans le monde dans lequel on est, on se dit, tiens, on pourrait faire quelque chose qui n'existe pas. On pourrait aller vivre dans... C'est intéressant de voir Elon Musk et les autres qui investissent des milliards pour se dire si on pourrait peut-être aller vivre sur d'autres planètes. Peut-être, mais on pourrait aussi apprendre à vivre sur la Terre avant d'aller vivre ailleurs. Donc on a cette capacité à se projeter dans le passé, dans le futur, dans l'ici, dans l'ailleurs, que n'ont pas les animaux. Les animaux, ils sont dans l'instant présent. Ils n'ont pas cette perspective. Et donc, c'est ce qui fait qu'il n'y a pas de déception, il n'y a pas de projection. Un castor qui fait son barrage, il va mettre 15 jours pour faire son barrage. Quand le vent souffle et que ça effondre tout, il reprend son truc et puis il va le faire ailleurs. Il se dit pas, ouais, je suis nul, en fait, ça veut dire que c'est à cause de l'autre. Non, il le fait ailleurs, point barre. Donc, il n'a pas ce potentiel à se projeter en permanence. Et nous, c'est ce qui nous fait nous oublier, parce que c'est ce qui nous fait oublier qu'on fait partie de la nature. Et ça, on s'est éloigné de cette conscience qu'on fait partie de la nature à différents moments, parce que les peuples premiers, on est tous des peuples premiers en essence.
Bien sûr.
On a tous été dans cette... Et puis, il y a eu des différents passages dans l'évolution de l'homme, du paléolithique au néolithique, quand on a commencé à se protéger de l'environnement, dans tout l'avènement de la Bible, où d'un seul coup, on a commencé à voir les dieux et les déesses au-dessus de la cité plutôt que de les voir dans notre cœur et dans la forêt. Et puis tout le passage de Descartes où d'un seul coup on a vu la matière on a vu l'environnement comme de la matière. Comme de la matière première à coloniser. Et donc on sait imaginer qu'on était coupé de la nature alors qu'on ne l'est pas. Mais on finit par ne plus sentir la nature. On la regarde comme étant quelque chose d'extérieur à nous. Alors que la nature est composée des cinq éléments, la terre, le feu, l'air, l'eau, l'espace, comme nous sommes composés, nous, des cinq éléments. On a en nous on a de l'or, de l'argent dans notre corps, on a du magnésium, on a tout ce qu'on trouve dans la terre, on le trouve en nous. Donc on est complètement, on fait partie de la nature, quoi, complètement.
Il y a aussi peut-être une question de langage, c'est-à-dire qu'évidemment quand on parle d'environnement, on suppose que c'est quelque chose qui est à l'extérieur, alors qu'évidemment, nous
faisons partie. Ça serait un vocabulaire. Moi, je crois que les écologistes, quand je vois que les élections, ils font 2 ou 3 ou 5%, je me dis, mais ça veut dire qu'on est. Je ne parle pas du parti écologiste, mais le simple fait de faire un ministère de l'environnement, ça veut dire qu'on n'a rien compris. Parce que on dit, on va faire un ministère de l'environnement, comme ça, on va prendre soin de la forêt. Et puis, à un moment donné, il y a une crise, on se dit, bah oui, mais là, il y a une réalité écologique. Donc, il faut... on arrête les énergies fossiles parce qu'il y a une réalité écologique. Et puis ensuite, on se dit, ah oui, mais non, on ne peut pas supprimer ça parce qu'il y a une réalité économique. Et donc, on va mettre des gens au chômage si on arrête ça. Mais... C'est notre façon à nous de travailler en silo. Ça, c'est vraiment le monde moderne qui travaille en silo. Là où les peuples premiers n'isolent pas, ils intègrent toujours leurs décisions économiques, tous toutes les décisions économiques sont en lien avec une dimension écologique et sont en lien avec une dimension sociologique et une dimension humaine et une dimension culturelle et une dimension sanitaire et philosophique. C'est-à-dire qu'il y a toujours, c'est ça la sagesse, c'est de pouvoir superposer les prismes pour pouvoir, dans une décision, intégrer un maximum de prismes. Là où nous, on isole. C'est-à-dire quand il y a une crise financière, par exemple, on se dit, bah là, il faut relancer la croissance. Donc, on va relancer la croissance coûte que coûte. Et puis après, on va se rendre compte que on a complètement anéanti les forêts, donc on va absolument faire une économie. Mais tout ça, c'est comme si on agit comme ça parce qu'on se sent coupé de la nature. Si on était plus en lien avec la nature, on prendrait naturellement. Voilà, quand on intègre ça avec sagesse, ben on n'est pas forcément contre la chimie, on est contre l'abus de chimie. On n'est pas contre le fait d'être... Moi, je suis végétarien, mais je ne veux pas que tout le monde devienne végétarien. Ceux qui veulent manger de la viande, ils mangent de la viande. Mais par contre, c'est important d'être conscient que si on mange tous de la viande 5 fois par jour, on va contribuer à la déforestation en Amazonie. Parce que l'Amazonie, pourquoi on déforeste l'Amazonie? C'est pour créer des champs de soja pour nourrir le bétail dans des élevages industriels. Donc, quand on a cette conscience-là, on pourrait se dire, OK, allez, on mange tous de la viande 4 fois par jour, qu'on va payer le moins cher possible. Et donc, on choisit de la déforestation. Et c'est pour ça que les chamans nous invitent, comme les bouddhistes, nous invitent à développer le discernement, à développer l'observation, à développer cette forme de sagesse, de lien de causalité, de façon à ce que quand on fait un choix, il y a une expérience qui avait été faite dans un supermarché, c'était très, très intéressant parce que les gens faisaient goûter, il y avait une caméra cachée qui faisait ça, et puis ils faisaient goûter du pâté ou du jambon, des petits carrés comme ça, les gens disaient, ah, c'est bon, vous en voulez? Oui. Alors ils prenaient un petit cochon et puis ils le mettaient dans une fausse marmite en le faisant. Ils disaient, non, ne le tuez pas, ne le tuez pas. Mais si vous voulez manger du jambon, il faut tuer le cochon. Ah ben non, je ne veux pas. C'est Einstein qui disait, si les gens voyaient les animaux qu'ils tuent, tout le monde deviendrait végétarien. Mais nous, on refuse de voir. Et la conscience, ça passe par accepter de voir. On a besoin de se dire, moi, je veux manger de la viande tous les jours. Ça contribue à ça. Si je veux porter un collier en or, ça contribue à l'orpaillage illégal, etc. C'est ça, développer la conscience et le lien de causalité et d'interdépendance.
D'ailleurs, utiliser le mot viande, c'est aussi le mettre à distance de l'animal.
C'est ça.
C'est ça qui est intéressant. Alors que, c'est pas que les peuples premiers mangent pas de viande, parce qu'en réalité, ils en mangent aussi.
Non.
Mais par contre, ils célèbrent l'animal qu'ils tuent. C'est très différent de.
C'est pour ça que nous, d'automatisme. Moi, je suis végétarien pour des questions personnelles, mais je suis pas. Il y a des animaux végétariens, qui sont des animaux solides. Hein, le bœuf est végétarien.
Oui, bien sûr.
Le lion ne l'est pas. Et on a besoin de bœufs et de l'éléphant est végétarien. Donc on a besoin de. On a des natures différentes. Il y a pas de problème avec ça. Mais c'est juste développer cette conscience. Et pour moi, c'est la même chose. Il y a des grands voyageurs, il y a des nomades, il y a des sédentaires. Mais le tout, c'est d'être conscient. Moi, quand je prends l'avion, je le prends moins en ce moment, mais quand je prends l'avion, je me pose toujours la question. Il y a l'intérêt pour moi d'y aller. Mais je me dis, est-ce que ça vaut que je crame autant de pétrole pour aller là-bas? Si oui, j'y vais. Mais si sinon, j'y vais pas. Et c'est se poser ces questions-là dans notre quotidien, dans tout ce qu'on fait. J'ai toujours la possibilité d'aller faire mes courses avec un sac plastique ou avec un sac tissu, d'acheter une bouteille en plastique d'eau ou d'acheter ceci. Et notre, dans la façon dont on va s'alimenter, dont on va construire notre maison, dont on va avoir une relation avec les animaux, ça nous dit qui on est, quoi, quelque part.
Ça, je suis 100% d'accord avec ça. C'est-à-dire qu'évidemment, tout l'enjeu... Je crois que... En fait, un des grands problèmes dans notre société, il y en a plusieurs, mais c'est effectivement qu'on a perdu la conscience. C'est-à-dire qu'on fait les choses inconsciemment. Et comme on prend une douche, on va rester sous l'eau parce que c'est agréable. On va, je sais pas, pourquoi pas manger de la viande. Alors, 4 fois par jour, ça me paraît énorme, mais même 2 fois par jour, On va, je sais pas, on va pas faire attention en fait, et du coup on va faire les choses sans conscience, et ça
et on se
prend pas, et le pire c'est qu'on y prend même pas de plaisir parce que c'est sans conscience.
Ah oui, c'est ça le pire. Moi, si je regarde les chamans mongols, c'est vraiment des viandards. Ils mangent beaucoup de viande. Pourquoi? Parce que c'est des nomades, et quand on est nomade, on peut pas faire pousser pendant un an, voilà. Donc ils sont nomades, ils changent de, et donc qu'est-ce qu'ils font? Ils se déplacent avec les moutons et ils mangent du mouton. Du mouton matin, midi et soir, mais ils vivent avec les moutons, et puis ils vont les tuer, c'est eux qui les tuent, et puis ils tuent les plus vieux, et c'est un contrat à ce moment-là. Ça veut dire qu'ils prennent soin des moutons, ils les protègent, ils les nourrissent, ils les préservent, et puis à la fin de leur vie, ils les mangent. Ça me choque absolument pas. Pourtant, je vois la vie animale comme je vois la vie humaine. Mais ça ne me choque pas. Ça me choque davantage de se dire qu'on va faire des élevages industriels de poules et qu'on va... Et d'ailleurs, les chamans mongols sont... Enfin, les mongols, plutôt, sont souvent choqués quand je leur dis que les Français mangent du veau. Parce que pour eux, c'est inconcevable. Ils me disent, mais pourquoi vous mangez les bébés? Pourquoi vous ne mangez pas plutôt les vieux? C'est une vraie réflexion, quoi. Et c'est pour ça que si on avait vraiment la conscience de dire, écoute, si tu veux, à la limite, quelqu'un qui va pêcher, moi, ça me fait toujours mal au cœur pour le poisson, mais il pêche le poisson, il va manger son poisson. OK, il a fait souffrir le poisson, il mange le poisson, il est comme un lion qui mange un zèbre. C'est la vie, quelque part. Mmh. En revanche... de voir que on sacrifie, j'ai plus le chiffre en tête, mais combien d'animaux sont tués chaque seconde, c'est vertigineux. Et on pourrait dire la même chose du peuple végétal, avec une capacité à jeter je sais plus combien de milliers de tonnes chaque jour de végétaux qu'on fait pousser et qu'on met à la poubelle, quoi. Ça n'a aucun sens.
Et ça c'est effectivement, quand vous parliez des poissons, c'est une chose de pêcher son poisson pour manger, et c'est une autre chose d'avoir des filets de pêche qui raclent le sol et qui détruisent tout sur leur passage,
qui détruisent
des dauphins, des requins, des...
Bien sûr.
Et en fait on les jette par-dessus bord au final.
Et qui se fragilisent eux-mêmes, parce que la pêche industrielle, on a des coraux qui ont des milliers d'années, on a des poissons qui mettent des années à se reproduire, on a un équilibre simplement. Et c'est pour ça que que ce soit la pêche industrielle, l'élevage industriel, l'agriculture industrielle, elle est contre nature. La nature, elle est pas industrielle. Elle donne en abondance, mais elle est pas industrielle. Et elle donne en abondance, elle est terriblement généreuse. C'est incroyable. On fait de la permaculture ici au Moulin. C'est incroyable de voir ce que la terre donne. La terre est d'une générosité. C'est incroyable. Des fois, sans même qu'on s'en rende compte. C'est-à-dire qu'on va trouver d'un seul coup des potirons qu'on n'a jamais plantés parce que il y avait dans le potager un pépin de potiron et c'est parti, quoi. Donc, la terre est d'une générosité exceptionnelle. Mais si on ne respecte pas ces cycles, elle peut devenir d'un seul coup, d'une pauvreté terrible, comme ça peut arriver, comme ça nous arrivera.
Et d'ailleurs, ça arrive avec les engrais qu'on met dans la terre, parce qu'en fait, à la fin, on tue la terre elle-même.
Elle a perdu trois fois ses capacités nutritives en 20 ans. Et aujourd'hui, dans une tomate, il y a 27 produits phytosanitaires. Donc, plus on met de la chimie, plus on enlève les qualités nutritives de la pomme. Donc là où il fallait manger une pomme il y a 20 ans, si on voulait absorber le même contenu de vitamines, il faudrait en manger 3. Et en même temps, là je parle de pommes qui seraient non traitées, quoi. Alors, et je ne dis pas, encore une fois, qu'il ne faut pas traiter le verger, mais toujours avec parcimonie. Nous, quand on a les mains dans la terre, on a un peu moins d'idéaux quelque part. Et nous, quand on fait on a un potager en permaculture, on fait attention, on ne met pas de chimie, vraiment très très peu. Mais si à un moment donné on a une invasion de la pyrale du buis qui vient ici, on va s'interroger, on va se dire comment on peut pas laisser la pyrale détruire tous les buis comme ça en 3 jours. Donc qu'est-ce qu'on peut faire? On va utiliser le karcher, on défend notre territoire aussi, mais on fait en sorte d'avoir des incidences le moins possible. Et c'est, je crois que c'est là que les chamans et les peuples premiers pourraient parler avec les agriculteurs, parce que les agriculteurs, ce qui est terrible, c'est que au départ, ils aiment la terre, sinon ils feraient un autre métier, ils iraient travailler dans les bureaux. S'ils décident de travailler la terre, ça veut dire qu'ils aiment la terre. Ils sont toujours malheureux de lui faire subir ce qu'ils lui font subir. Et en plus, c'est souvent les premiers à en payer le prix. On l'a vu par le glyphosate, on l'a vu combien il y a de cancers qui se développent, de maladies de peau, de maladies. C'est les agriculteurs les premiers exposés. Donc, ils le font pas de gaieté de cœur. Mais c'est certain que quand ils abordent maintenant un champ qui fait tant de dizaines d'hectares, ils se disent, oui, c'est sûr que si je le fais à la main, je pourrais pas. Donc, parce que on est passé à une ère industrielle et que dans cette ère industrielle, on a perdu la forme de sagesse. Et c'est voilà ce qu'est on s'en rend compte aujourd'hui parce que c'est hallucinant. Je voyais un ami qui est maire d'un petit village en Normandie et donc il est président de de l'école, enfin de l'école du village. Et il me disait quand il fait le menu pour la cantine, il doit lancer un appel d'offres pour que les vergers de toute l'Europe participent à l'appel d'offres. Et donc, en l'occurrence, c'était les Polonais qui livraient des pommes en Normandie pendant que lui allait livrer des pommes en Roumanie. Donc, c'est du délire. On n'est plus dans l'écologie, on n'est plus dans l'intelligence de la nature. La nature est là. Elle donne énormément, mais ça n'a aucun sens d'aller vendre nos pommes en Roumanie pour aller en acheter en Pologne. Ça n'a aucun sens. C'est que des questions de bon sens. Hein. C'est vraiment. Et on a besoin. Des fois, on a besoin d'un choc un peu pour reprendre ce bon sens, se dire, mais on délire complètement. On a des habitudes qui sont terriblement toxiques.
Je crois qu'on va en avoir. Enfin, on en a déjà eu, on a eu le Covid.
Je
pense que malheureusement, des chocs, on en aura, mais...
C'est ça, on en aura. Et moi, je souhaite que les chocs soient suivis des faits. Mais souvent, on se dit, ah oui, mais le gouvernement, il n'a pas changé. Oui, mais nous, qu'est-ce qu'on a changé? Est-ce qu'on a changé quelque chose dans notre alimentation? Parce que l'État, c'est nous. Et on peut voter autrement qu'avec un bulletin de vote. On peut voter avec notre porte-monnaie, en choisissant d'aller plutôt voir le producteur local plutôt que d'aller acheter des melons de Charente qui viennent du Maroc. J'ai rien contre le Maroc, j'adore le Maroc, je le fais chaque année, mais il n'empêche que il y a quelque chose qui est délirant avec ça.
Est-ce qu'il y a des messages particuliers que ces peuples premiers vous ont délivrés, qui sont particulièrement beaux et que vous avez envie de partager?
Ce qui nous apporte, c'est leur vision sur le monde qui aide à se dire la planète est une belle planète. Ils sont pas aigris. Ils nous disent la planète est belle et nous on est beau. Si vous me disiez les photos sur Instagram, elles sont belles parce que les peuples premiers se mettent en beauté. Quand il y a une cérémonie, que ce soit en Amazonie, que ce soit dans les tribus de Bornéo, ils se font beaux avec ce qu'ils trouvent, avec des maquillages, avec des tenues. Ils se mettent en beauté, pas pour se dire je suis plus beau que le voisin, pour rendre hommage à la terre. Ils sont comme le paon qui fait la roue. Et comme tous les animaux, quand on voit les animaux qui font la course, c'est magnifique. Même un canard qui n'a pas particulièrement de dégaine, il va faire la course. C'est très très beau quand il fait la course. Donc tous les animaux sont capables de se mettre sur leur beauté pour honorer leur règne. Et nous, quand on se met sur notre beauté, souvent, pas toujours, mais c'est souvent pour s'honorer soi-même, ce moi différemment de toi. Non, on pourrait se mettre plus sur notre beauté pour rendre hommage à l'humanité. Et ça ferait du bien de voir les gens bien habillés, bien maquillés, mais dans cette écologie-là encore.
Complètement. Est-ce qu'il y a d'autres messages qui vous ont touché dans ce qu'ils ont partagé avec vous? Enfin, j'imagine...
La joie, parce que la joie, ça s'entretient. Et moi, j'ai cru longtemps que c'était les phénomènes extérieurs qui nous amenaient la joie. En fait, c'est exactement l'inverse. C'est la joie qui amène les événements extérieurs favorables. Et donc, d'être dans la joie, ça s'entretient. En Amazonie, ils parlent de la jiboya, c'est vraiment la danse de la joie. On va révéler la joie en nous pour retrouver la confiance et pour retrouver l'élan, l'entrain d'œuvrer. Qu'on a souvent perdu, quoi.
C'est hyper intéressant. Vous avez vu d'autres... Parce que c'est vrai qu'aller trouver la joie en soi, je pense qu'il y a beaucoup de gens chez qui ça va résonner, nécessairement. Donc, il y a la danse, qui est une manière de le faire, j'imagine. Est-ce que vous avez eu d'autres manière de l'envisager, ou est-ce que vous avez des conseils, c'est un grand mot, mais en tout cas...
Dans toutes les traditions, il y a la danse, il y a le chant, toujours. Toujours.
D'accord.
Et puis, il y a l'art d'une façon générale, le dessin, mais là aussi, c'est pas le dessin pour dire « regarde bien comme je dessine ». D'ailleurs, on peut dessiner à plusieurs, on décore, mais on utilise nos facultés. L'être humain a des facultés quand même, c'est incroyable ce qu'on est capable de faire par rapport dans notre potentiel. On a un potentiel hallucinant. Hallucinant. On a la capacité de faire pousser un potager, on a la capacité de danser le rock, on a la capacité de marcher sur les mains, on a la capacité de jeûner, on a la capacité d'embrasser, de faire des bouquets de fleurs. C'est hallucinant ce qu'on a comme, c'est vertigineux ce qu'on a comme potentiel. Mais ce potentiel, on ne l'utilise pas malheureusement toujours à bon escient. On ne l'utilise pas pour célébrer la beauté de notre humanité. Et c'est ça qui est aujourd'hui attendu par l'humanité, c'est que nous célébrions la beauté de notre humanité.
Est-ce que ça n'implique pas de modifier notre rapport au bonheur et notre rapport surtout à la réussite ? Qu'est-ce que c'est que la réussite ?
Ça demande de distinguer qu'est-ce que c'est réussir ? Est-ce que c'est réussir dans la vie ou est-ce que c'est réussir sa vie ? Et souvent, on a voulu nous faire croire que quelqu'un qui a réussi, c'est quelqu'un qui a réussi dans la vie. On va se dire, oh, regarde, il a réussi quand même. T'as vu, il a monté tous les barreaux de l'échelle. Aujourd'hui, il est directeur d'une entreprise. Il a réussi. Mais il a réussi, t'as vu son compte en banque. Il a un chalet en Suisse, il a une grosse voiture. Il a réussi. Non, il a réussi dans la vie. Il a réussi dans sa carrière. Mais on sait que tous, un linceul n'a pas de poche et que de toute façon, à la fin de notre vie, quand on va partir, c'est là qu'on va se dire, est-ce que j'ai réussi ? C'est-à-dire, est-ce que j'ai aimé ? Est-ce que je suis dans le cœur ? Est-ce que je suis dans l'amour ? Est-ce que je suis dans la confiance ? Ou est-ce que j'ai encore plus peur et que je veux pas lâcher mes biens ? Puisque dans les lois qu'apporte le bouddhisme, la première loi, la première vérité incommensurable et incontournable, c'est le fait de l'impermanence. On est sur un passage court sur la terre. Hein, c'est le Dalai Lama qui dit « Les êtres humains vivent comme s'ils n'allaient jamais mourir, puis meurent comme s'ils n'avaient jamais vécu. » De toute façon, il y a une certitude, c'est qu'on va tous quitter cette terre à un moment ou à un autre. Et l'autre certitude, c'est qu'on ne sait pas quand. Voilà. Quand on a posé ça, ça peut déjà nous dire, ok, alors qu'est-ce que je peux mettre en œuvre pour aller dans cette urgence de vivre ? De se dire que de toute façon, autant, puisque la mort peut venir à n'importe quel moment, autant se dire aujourd'hui, c'est peut-être le dernier jour de ma vie, et donc œuvrer vraiment pour aller me connecter au meilleur. Et le meilleur, c'est l'amour, c'est la joie, c'est s'il ne nous restait qu'une journée à vivre, qu'est-ce qu'on ferait ? Et là, c'est une vraie question que je pose aux auditeurs. Si c'était la dernière journée, qu'est-ce que vous feriez ? Et si vous vous dites, ah ben attends, je changerai ça, ben n'attendez pas, mettez-le en place dès aujourd'hui.
Et quand vous tenez ce genre de discours, est-ce qu'on ne vous rétorque pas, justement, et vous en parliez tout à l'heure, oui, mais il y a une réalité économique, j'ai un prêt, j'ai un appartement qu'il faut que je paye, j'ai, je ne sais pas, une voiture, enfin peu importe, mais la vie, gagner sa vie d'ailleurs.
La vie qu'on s'est créée. C'est-à-dire, nous sommes créés cette vie. Nous nous sommes créés d'avoir une voiture, d'avoir... Et on est, nous-mêmes, souverains par rapport à ça. On a tous le choix de vivre dans un ermitage ou dans un palais. Mais dans un cas comme dans l'autre, il faudra se donner les moyens et en payer les frais. Mais quel que soit notre idéal, c'est de se dire, on voit chaque année des gens qui sont partis de rien dans la matière, qui sont arrivés très haut, dans la matière. Voilà, ils ont atteint leur objectif. C'était leur truc de se dire « je veux arriver à ça ». Donc on a tous cette capacité. On peut décider d'avoir des enfants ou de ne pas en avoir. On peut décider de vivre à la campagne ou à la ville. Et chaque décision qu'on prend, elle implique des responsabilités. Et c'est important de prendre ses responsabilités. Moi, j'ai fait le choix, par exemple, j'ai été nomade et pendant très longtemps. Aujourd'hui, j'ai fait le choix de me poser et de créer un centre d'accueil, de méditation, de ressourcement, de stage, etc. en Bourgogne. Donc, j'ai investi énormément. J'ai emprunté aux banques. J'ai investi énormément. C'est un choix que je fais, donc je l'assume complètement, je suis heureux de faire ça. Ça me permet de nourrir mon œuvre Quand je dis mon œuvre, on a tous une œuvre, quelle qu'elle soit, Et notre œuvre, c'est quand on prend conscience que c'est une œuvre, déjà, ça change. C'est plus un travail, c'est plus un truc qu'il faut faire, qu'on doit faire. C'est qu'est-ce qu'on choisit de faire. Et à ce moment-là, bah oui, j'ai fait le choix de créer un lieu d'accueil. Bah, ça me demande d'investir, ça me demande de faire des travaux, ça me demande d'y investir et d'y consacrer une énergie énorme. Mais c'est un choix que je fais. C'est pas un truc qu'il faut faire. C'est très, très différent.
Ouais, et ça sort un peu d'ailleurs de cette idée de gagner sa vie. Parce qu'en fait, gagner sa vie, ça veut dire que vous l'avez déjà perdue par définition.
Mais notre vie, on l'a gagnée à la naissance déjà. On n'a pas besoin de gagner sa vie, on peut gagner notre vie. On peut gagner un salaire pour honorer notre œuvre. Et même ça, moi, je suis très attentif aux mots que j'emploie parce qu'on crée notre réalité avec ces mots. Donc je suis très attentif. Je ne travaille pas, par exemple, j'œuvre. Je ne travaille pas, ça ne me va pas, ça vient du latin tripalium, c'est le tabouret qui était utilisé au Moyen-Âge pour la torture, le tripalium. Donc dès qu'on va travailler, il faut bien travailler pour gagner sa vie. On donne on engramme des mémoires dans l'inconscient, plutôt que de se dire on œuvre pour contribuer à rendre ce monde meilleur. Chacun fait sa part avec son talent, et chacun a un talent et chacun est bienvenu.
Super beau. Merci beaucoup Arnaud. Ce podcast s'appelle Vlan, donc je voudrais savoir à quoi vous voulez ouvrir et où claquer la porte.
Eh bien, peut-être claquer la porte à ce vieux monde qui est obsolète. Ce vieux monde, justement, qui s'était appuyé sur l'ego, sur le faire plus fort que le voisin, plus grand que le voisin, et fermer la porte définitivement à la petitesse individuelle pour s'ouvrir et pour œuvrer sur la beauté de notre monde et la beauté de notre humanité.
Ouais, complètement. Je vois totalement. De toute façon, ce mode moderne, il est un peu en train de s'éteindre. Hein. Je pense que dans les 10 années à venir, on est en train de basculer dans ce
monde. Je suis content. Je le raccroche pas. On dit toujours et vite, vivement qu'on retrouve comme avant. Mais je veux pas revenir comme avant.
Ah bah moi, certainement pas. Je pense que cette société, elle est pas terrible. Elle a plein de bons côtés. Hein.
Et aux personnes qui me disent souvent, j'arrive pas à m'adapter à cette société. Hein, j'ai toujours cette phrase qui me revient. Si on n'arrive pas à s'adapter à cette société, c'est qu'on est venu sur la Terre pour en créer une qui nous corresponde.
Pas mal. Merci beaucoup Arnaud.
Avec plaisir.
Merci d'avoir écouté Vlan. Si vous avez aimé l'émission, n'hésitez pas à mettre des étoiles sur vos plateformes de podcast préférées. Vous pouvez aussi partager l'épisode sur vos réseaux sociaux, Instagram Stories, Facebook, LinkedIn, où vous voulez. Je suis Grégory Pouy. Vous pouvez me retrouver sur l'intégralité des plateformes sous le nom Greg From Paris. Si vous avez des idées pour des invités, si vous avez des commentaires, n'hésitez surtout pas à m'envoyer un message. Allez, merci et à bientôt !